C'est parti pour une autre émission. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, votre émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Pascal, es-tu énervé? T'approches pour le départ pour le Kilimanjaro?
Honnêtement, c'est rare que je me livre sur l'état émotionnel. Hier, c'était pas une belle soirée.
Non!
Non, j'ai mal canalisé un peu le genre de trop-plein là, que
ah,
ça
je
amène
comprends.
De partir et tout ça. Mais c'est correct, on est reparti sa traque, la nuit c'est de sommeil ça. A amené, puis sa beauté de se revamper tout ça. Mais écoute, moi, ce que j'ai remarqué avant de partir, là,
ah,
je vais ouvrir une boîte de Pandore, 418-971-1021. Qu'est-ce qui se passe ces routes temps-ci? C'est-tu les chantiers de construction?
Ah.
Comment c'est orienté, c'est indiqué? C'est incroyable comment...
C'est pas un petit trafic, Pascal Cévin?
Du gros trafic à un 45 minutes quand c'est un okay. genre de 7 minutes habituellement. Puis là, moi, j'étais pas sur à Lévis ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Je sais même pas où c'est brûlant. Je fais Saint-Augustin, par exemple, le Bourgneuf. Là. L'enfer, ouais. L'enfer. Ce matin... parti bien plus tard parce que je voyais que finalement j'avais passé mon temps dans le trafic. C'était un 1h15 me rendre au travail. Là, on parle dans 8h15 jusqu'à 9h15 environ. Pas
ouais,
dans l'heure où il y a plus de trafic. Puis je vois tout ce qui est accident aussi au Québec 511 en le suivant ici là, au midi depuis quelques semaines. Puis j'ai l'impression que tout le monde échappe quelque chose. Tout le monde fonce dans une barrière. Tout le monde se fonce dedans.
Je partage ton constat.
Ah
oui,
Antonine,
bien
aussi, t'es
ouais.
jamais dans le trafic. Moi, alors que j'arrive le matin, j'ai pas de trafic.
Non, t'as pas de trafic. Mais il y a beaucoup de travaux un peu partout. Moi, je suis à Sillery, puis il y a beaucoup d'entraves pour sortir de Sillery. Puis c'est comme si les gens savaient pas se gérer, je m'excuse, là, parce qu'on peut parler de planification, puis les travaux, puis tout ça, mais par exemple, quand il y a une voie qui disparaît sur une route...
Ah oui, puis là, j'essaie d'être gens... celui qui va aller jusqu'au bout!
Mais il faut, en fait, Jeff, il faut aller jusqu'au bout.
Mm-hmm.
C'est la manière la plus efficace, et là, quand il y a quelqu'un qui est au bout, tu
ouais.
le laisses passer. Ça
un
te prend trois secondes. Chacun son tour.
Chaque personne dans la file de droite, par exemple, doit... chacun son tour, laisser quelqu'un de gauche qui est au bout de la voie qui se rétrécit passer.
Mais ça, c'est pas compliqué. Ensuite, les gens semblent avoir des difficultés avec les priorités. Là, ça,
les clignotants.
Oh là là. Oh,
on
ben
peut-tu
oui.
aborder le fait que j'ai manqué la date où c'est devenu optionnel? Parce que moi, vous m'aidez grandement.
Quand
ça
aide tout le monde.
Ça m'aide. Là, je peux anticiper oui. vos mouvements. Je peux choisir ouais. la voie dans laquelle je vais être. Je peux calculer si je vous laisse passer ou non. Le plus intelligent, c'est d'aller un petit peu plus vite pour ensuite que vous puissiez passer.
Puis on s'entend-tu quand on arrive à une intersection à 4 stops? Vos clignotants nous aident justement à comprendre les priorités, s'il vous plaît.
Allez,
genre...
où on
mec,
va?
Là, je veux pas. Sûrement que c'est pas ton but. Là,
là
on
les
veut
filles,
pas,
vous vivez de la frustration.
Les gens, honnêtement, un peu.
418-971-1021, si vous vivez de la frustration, Louis nous écrit les bip de pistes cyclables à marchand. Bon, est-ce que ça explique
c'est
tout?
C'est pas mon plus gros problème
je
en ce moment.
Répond, on parle plus d'autoroute pour le moment. Webradio-blvd.fm pour nous écouter. BLVD-1021, l'application disponible sur App Store et Google Play Store. Et venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. Et textez-nous 418-971-1021. C'est quoi vos frustrations sur la route à l'heure actuelle? Êtes-vous comme Antonine Iaccarini et Pascal CV? Vous êtes pris dans ce mosus de trafic-là? Je vois-tu finir par arriver où je veux arriver?
Avec quelqu'un qui dit « Salut gang, je suis de Saint-Étienne. Ça me prend tellement de temps maintenant que je songe à quitter mon emploi. Je capote, le trafic m'enrage.
Ouais.
Les gens sont rendus tellement agressifs sur la route, ça en fait peur. Puis je l'indique, là, une affaire qui est pour moi cancérigène sur les autoroutes, là, puis honnêtement, très accidentogène. Entrer sur l'autoroute à 20, là.
Oh, mon Dieu.
C'est pas que vous faites la bonne chose. Je suis désolée de vous dire que vous êtes vraiment dangereux. On n'arrive pas
sans
à
arriver le flow.
Le go with the flow.
Il y a quelqu'un qui nous dit attendez cet hiver.
Oh,
on n'est pas rendu à l'hiver.
On n'est pas rendu là.
On n'est surtout pas rendu dans la fameuse saison où c'est pas encore obligatoire tes pneus d'hiver, mais il est tombé une bonne bordée.
Ouais.
Hey, ça, ce matin-là, c'est le bordel.
Je suis vraiment désolée. C'était un trop plein.
Hey, c'est correct, t'as
ça
le droit.
Fait du bien.
Ah oui. Hey, évapore.
Mais c'est vraiment que j'avais remarqué une différence.
Bon. Yes, c'est le temps de passer au caucus.
Oui.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Anto, on part ça avec sûrement un des bons pétards mouillés de la politique provinciale de l'année 2025. Hier, on reçoit un communiqué du Parti conservateur du Québec. Youri Chassin invite Éric Duhaime à l'Assemblée nationale. On va parler de nos priorités. Donc là, on se dit, ça y est, crime, ça y est. Youri Chassin va revenir sur ce qu'il nous a dit en ondes pas plus tard que la semaine dernière?
Bien, alors je vais vous répondre très franchement, non. Parce que, dans le fond, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Moi, je suis sceptique, par exemple, du discours du premier ministre, puis je l'ai écouté très attentivement. J'espère qu'il est sérieux, j'espère qu'il va y aller. Moi, à la limite, ce matin, peut-être que je mets très sympathiquement ma propre pression pour lui dire, ben, on demande à être convaincu, mais je demande aussi au Parti conservateur, puis à tous les autres partis d'opposition, de détailler leur proposition, puis à la limite aussi d'avoir, des propositions qui vont inciter aussi le gouvernement à voler certaines idées.
La question est, est-ce que vous allez aller chez les conservateurs?
Ben,
je
vous
dis, ben franchement, non. Mais là, après ça, j'aimerais ça si les conservateurs pouvaient détailler. Donc là, hier, on reçoit un communiqué du Parti conservateur disant, hey, Youri Chassin, il invite Éric Duhaime, puis on va détailler nos propositions pour la prochaine session à l'Assemblée nationale. Donc là, je t'appelle, on se dit, hey, c'est fait, Youri Chassin s'en va avec les conservateurs, 10h30 à matin, finalement, pouette, 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 pouette.
Ben, ils nous ont bien eu. Ils ont fait un Catherine Fournier qu'on appelle.
Oui, c'est vrai!
Parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Catherine Fournier, elle avait envoyé un avis aux médias pour parler de son avenir politique. Généralement, quand tu veux parler de ton avenir politique, c'est pour annoncer que tu t'en vas.
Quelque chose de gros, du
puis
moins.
Finalement, elle annonçait qu'elle se représentait. Puis les journalistes étaient fâchés. Puis elle disait, ben là, pourquoi les gens pensent toujours que c'est négatif? Fait que, bref, on appelle ça depuis ce temps-là faire un Catherine Fournier. Mais c'est vrai qu'on s'était un peu énervés, là, Jeff et moi. Hier soir, ça avait commencé. Je voyais un peu sur X, Radio-Canada, elle rapportait ça, etc. Donc, on a pensé que finalement, Youri Chassin deviendrait le billet doré d'Éric Duhaime pour entrer à la nationale, mais aussi parce que on s'attend à ce que Éric Duhaime peut-être va avoir un débat autour de sa participation au débat des chefs
en
à la
effet.
Prochaine campagne électorale. Parce que c'est pas quelque chose qui est régi par Élections au Québec, là, par le directeur général des élections, les règles entourant qui on invite dans un débat des chefs, c'est les médias qui décident en fait qu'ils invitent, puis ils se mettent des lignes directrices. Généralement, on met la ligne à est-ce que tu as un député ou pas?
Ouais.
Par exemple, le Parti vert au fédéral a commencé à participer à des débats des chefs au palier fédéral quand il y a eu un premier député.
Il n'y en avait pas la dernière fois. Il a participé là, avec 500 000 électeurs, par exemple, qui ont quand même voté pour lui.
Il y en avait un? Ah, t'as oublié!
C'est vrai, j'ai oublié l'époque de Claire!
On pensait que Youri Chassin serait la nouvelle Claire Samson, le nouveau Claire Samson.
Mais comment ai-je pu faire pour oublier Claire?
Elle est pourtant inoubliable.
Ben, c'est ça!
Donc,
pardonnez-moi.
Donc, c'était Claire Samson qui était sa députée. Ça lui avait ouvert les portes du débat des chefs. Ça lui ouvrait la porte de l'Assemblée nationale aussi, parce que ça permet, par exemple, de faire des points de presse qu'on appelle dans notre jargon de l'Assemblée nationale dans le foyer, alors qu'Éric Duhaime fait ses points de presse à l'extérieur de l'Assemblée nationale à la tribune de la presse, doit louer à chaque fois une salle pour faire ses conférences de presse. Donc, maintenant, s'il est invité par un député, donc Youri Chassin peut l'inviter, même s'il n'est pas dans son parti, pour venir faire ses conférences de presse. Par contre, si ce n'est pas un député qui se dit sous la bannière du Parti conservateur, ça n'ouvre pas exactement toutes les portes. Moi, ce que je comprends, c'est que Youri Chassin, il veut rester indépendant. Il valorise ça. Il est content. Ça lui permet de jouer un peu sur tous les tableaux. Lui, son but, c'est quoi? C'est d'amener tout le monde un peu plus vers la droite. C'est un député, une personne qui est très connue pour ses positions plus à droite. Puis quand il dit « je veux que les conservateurs détaille certaines choses », bien, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que tu te joins à un parti, mais dans le fond, tu te joins à quoi? Parce qu'on ne connaît pas tout de la vision d'Éric Duhaime. Il y a plusieurs enjeux sur lesquels la vision n'est pas toujours très développée. On en a jasé quelques fois, notamment ces questions d'immigration, mais sûrement qu'il y a d'autres enjeux aussi là, sur lesquels Youri Chassin voudrait avoir plus de précision. Mais ça ne veut pas dire que Youri Chassin ne va pas faire ça d'ici le débat des chefs, par contre.
Ouais,
il pourrait garder son indépendance longtemps.
Puis se rallier à la dernière minute.
Ouais.
Pascal, on vient de recevoir un communiqué commun de Youri Chassin et Éric Duhaime. Rapidement, détaille-nous les 5 priorités. Puis tu vas voir, Antonine, je pense pas qu'il y ait bonne nouveauté là-dedans.
Oui, vous parliez, c'est entré en fait au public, à tous les médias, en fait, on envoyait ça dans les boîtes courriels, puis tu parlais des mesures ou en fait des priorités de Youri Chassin. Là, ils se sont alliés, Éric Duhaime, Youri Chassin, pour parler de 5 mesures fortes. La première, libéraliser le commerce de l'alcool. Alors, le monopole de la SAQ dérange, on dit que ça coûte trop cher aux Québécois, ça limite la liberté de choix, que les consommateurs paient plus, subissent des grèves, doivent accepter une offre restreinte. Ce n'est pas normal. On veut vendre du vin et des spiritueux et pas avoir ce genre de mission de l'État là-dedans. Deuxième priorité pour eux, abolition des quotas de véhicules électriques. Bon, c'est sûr que ça, c'est une lutte qu'Éric Duhaime mène au bout de ses bras depuis plusieurs mois déjà, mais les deux
mon
hommes
char,
jugent que l'interdiction des voitures à essence hybride jusqu'en 2035, là, ça ne respecte pas les citoyens. Il faut savoir que M. Legault avait reculé, mais quand même, ils reviennent avec cette date-là. Mmh. Et les Québécois sont sensibles aux défis climatiques, c'est ce qu'ils disent. Ils vont faire le bon choix selon leurs besoins. Troisième priorité, vote secret pour l'accréditation syndicale. Donc, on parle de moderniser le régime syndical. Et là, M. Chassin a dit qu'il estime que la vraie modernisation commence par le processus de création d'un syndicat qui devrait permettre aux travailleurs de se prononcer dans un vote secret. Quatrième priorité, fin de la permanence des hauts fonctionnaires. Pas besoin d'en dire plus. Vous comprenez, imputabilité, ancienneté qui prime pas celle de la compétence, etc. Et ramener la SAAQ CLIC et SAAQ à sa mission d'assurance. Donc, on ne veut pas d'une société d'État unique au monde là-dedans et inutilement bureaucratique, c'est ce qu'a déclaré Éric Duhaime, mais les deux signent ce communiqué-là.
Il n'y a rien de nouveau là-dedans, Antonine. Il n'y a rien qui frappe, là, qui fait comme « Oh mon Dieu, voici une révolution ».
Non, mais c'est très concret. C'est, des, c'est cinq propositions qui sont très concrètes et le timing est vraiment intéressant parce que la CAQ, de toute façon, s'apprête à faire un petit virage vers la droite.
Bien, la CAQ s'apprête, pas s'apprête, fait la guerre aux syndicats à l'heure actuelle, donc juste
guerre
le point 3.
Aussi la question des véhicules électriques. Ouais, on se doute bien que Bernard Drinville a reçu le mandat de baisser certaines cibles, de réduire des lois environnementales. Donc, Yuri Chassin et Éric Duhaime vont pouvoir dire « Ah ah! » On a fait des gains.
C'est grâce à nous.
Eh oui.
Je comprends la stratégie derrière ceci. Mais bref, ça reste mon opinion personnelle quand même. Ça ne m'a pas impressionné pantoute à matin.
Pas impressionné.
M'attendais à de quoi de mieux.
Bon.
Mais Éric Duhaime et Yuri Chassin seront en entrevue dans Marceau le matin et demain matin.
Bon.
Fait qu'écoutez, là, aux
alentours
de 8h.
Peut-être qu'ils vont
t'impressionner. Peut-être qu'ils m'impressionneront à ce moment-là. Dossier qui fait très jaser sur la colline parlementaire, c'est le dossier des armes à feu, mais surtout le comportement du ministre de la Sécurité publique. C'est bien ça au niveau du gouvernement fédéral.
Oui, tu veux-tu dire son nom?
Ouais, vas-y donc, dis-le avant moi. Je vais te suivre.
Honnêtement, pas très facile. Donc, il s'appelle Gary Anandasan Gary.
Gary Anandasan Gary.
Au moins, c'est Gary Gary, mais
Gary,
c'est,
Gary.
Pas,
bon.
C'est pas facile.
Alors, du ministre Gary, hein? Je vais l'appeler
Gary,
comme
Gary.
Ça. Gary Gary. On écoute Pierre Poilievre en chambre, justement, par rapport à des commentaires qu'il aurait passés.
Policy because it's good politics. Going ahead with the bad policy because it's good politics. Does the Prime Minister agree?
The Honourable Minister of Public Safety.
Mr. Speaker, it's a good thing there's a recording of it so that Canadians can have a look for themselves. Let me be very clear, Mr.
Donc, dans le fond, ce que Pierre Poilievre dit au ministre de la Sécurité publique, c'est que monsieur, en fait, le ministre de la Sécurité publique, pour résumer, a été enregistré en train de donner le fond de sa pensée sur la loi, sur le programme, en fait, de rachat des armes d'assaut. Parce que le gouvernement Trudeau avait interdit à peu près plus de 1000 armes dites d'assaut. Et maintenant, ben, il y a un projet pilote de rachat qui se passe dans les maritimes. Et on doit étendre ce projet pilote à l'ensemble du Canada. Les conservateurs, toujours très frileux à toute nouvelle législation entourant les armes à feu. L'électorat conservateur n'aime pas ce genre de politique. Donc, monsieur le ministre de la Sécurité publique...
Anandzagari.
Bravo. A été enregistré en train de dire que c'est un programme qui n'est pas vraiment applicable. Et que les policiers vont trouver ça extrêmement lourd puis qu'il n'était pas très favorable, finalement, à cette politique-là.
Puis là, hier, pendant 18 minutes devant les journalistes, il annonce sa politique. Puis là, il essaye de se démerder devant tout le monde.
Un grand malaise.
Il y a des questions en français, c'est Joël Lightbound qui vient à la rescousse. Mais tu vois que Joël Lightbound, il n'est pas super confortable. Puis tu vois la gang de députés en arrière, et ils ont une face de plâtre un peu parce qu'ils disent « Oh my God, que le messager n'est pas le bon ».
Bien, c'est ça. Une fois que le ministre lui-même de la Sécurité publique dit que c'est une mauvaise politique. Et dans la conversation, en fait, on ne l'a pas, la conversation. Les journalistes ont pu l'écouter et rapporter ce qui a été dit. Mais il dit, je peux pas arrêter cette politique-là pour des raisons politique. Donc, c'est ça que Pierre Poilievre dit. Dans le fond, c'est pour des raisons politiques que ce gouvernement-là a fait ça. Le ministre l'a dit lui-même. Et le ministre de la Sécurité publique se lève et dit « Je suis content là, que... » Dans le fond, c'est une bonne affaire là, que j'aie été enregistrée parce que ça va me permettre là, de clarifier le tout. Mais il n'y a absolument rien qui est clair. La seule chose qu'on retient de tout ça, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec cette politique-là. Sur le dossier des armes à feu, j'ai aussi souligné à quel point c'est un dossier qui est polarisé. Puis, je trouve que des deux côtés, on tire l'élastique en tabarouette. Du côté du gouvernement, on nous dit, notamment cette ligne là, que j'entends tout le temps, on veut sortir les armes d'assaut de nos rues. C'est un programme de rachat d'armes, puis, donc, des armes qui étaient prohibées, etc., bon, mais de propriétaires légaux. Donc, tu sais, quand tu me dis on va sortir les armes d'assaut des rues, on dirait que je vois des gangs de rue avec des AK-47, là, tu sais, comme si...
Alors que là, c'est des propriétaires qui, en toute bonne cause, quand cette arme-là était... légales, sont allés l'acheter avec un permis.
Ils vont au centre de tir, probablement.
Ils vont au centre de tir.
Ils ne sont pas dans les rues là, avec leurs armes d'assaut. Là.
En effet.
Ça, c'est la première chose. Puis de l'autre côté, ben, les conservateurs font toujours l'espèce de même ligne de dire on s'en prend aux chasseurs. Je veux juste vous dire, ces armes d'assaut-là, à moins que les orignaux aient des guns, nous autres aussi, là, ça ne vous sert pas grand-chose d'avoir des armes d'assaut.
C'est pas des armes pour les chasseurs. Là.
Pas nécessairement.
On n'est pas venu couper dans la chasse. Il n'y a personne qui va aller à l'orignal bientôt qui dit « Oh my God, je suis obligé de revendre mon fusil parce que c'est pas le bon. »
Je pense que les gens vont pouvoir quand même aller chasser. Mais c'est vrai que les chasseurs déplorent la bureaucratie. C'est quand même des politiques qui ont fait énormément de débats à travers le pays. Mais bref, dans ce dossier-là, de la politique, il y en a en masse. Fait que le ministre de la Sécurité publique, quand il dit des raisons politiques, tout le monde fait de la politique dans ce dossier-là.
En effet, c'est clair. Par contre, je pense que tu es d'accord avec moi, puis tu as le droit d'être en désaccord en passant, mais
on verra.
On aime mieux avoir un registre, un petit peu plus de bureaucratie au Canada que vivre ce qu'ils vivent aux États-Unis.
Absolument. Moi, je suis très à l'aise avec les politiques qui font en sorte qu'on doit enregistrer notre arme. Mais c'est vrai que quand j'entends des choses comme on va sortir les armes d'assaut des rues, je trouve que finalement, on n'est pas super honnête sur les objectifs puis les indicateurs de performance d'une telle politique.
En effet.
C'est pas ça du tout, mais bon, écoute, c'est de la politique, hein, qu'est-ce que tu veux.
Exactement. L'objectif est sûrement plus que ça se retrouve pas à un moment donné justement dans les mains de gangs criminalisés, j'imagine?
Bien, premièrement, tu sais, ce genre d'armes à feu-là, c'est reconnu. En fait, plus qu'il y en a qui circulent, plus que ça augmente la violence par arme à feu. Je veux dire, il y a toutes sortes de facteurs, mais c'est un choix qu'on a fait au Canada, évidemment. Puis même si les gens étaient, je pense, il y avait quand même pas mal de monde qui était contre le registre dès le départ, là, si on parle seulement de cette partie-là, tout le monde s'est habitué finalement à vivre sous ce registre-là. Et c'est vraiment pas la fin du monde à suivre. Hein. Les lois ne sont pas si compliquées à suivre que ça.
Autre dossier politique épineux, c'est celui de l'identité de genre. Et Jean-François Roberge s'attaque au YEL et au TOUST dans les écoles. Il est en entrevue avec nous ce matin. Je vous fais entendre justement sa réaction et le pourquoi il le fait.
Ben, je pense qu'on est rendu à agir pour éviter la confusion. Parce que là, au moment où on se parle, de plus en plus, dans toutes sortes d'organismes, dans des ministères, dans des municipalités, n'ayant pas de guide clair, ben les gens font au meilleur de leur connaissance, pour être gentils, pour être inclusifs, ils se mettent à utiliser des mots qui fonctionnent pas avec la langue française. On comprend qu'il y a des gens qui appartiennent à la diversité de genre, mais quand on utilise, par exemple, le mot « YEL » pour dire « YEL sont contents », mais là, content, c'est content ou contente? On peut pas le conjuguer. Le pronom n'est pas conjugable, ne permet pas d'accorder. Donc là, ça pose un deuxième problème. Les gens écrivent content, en plein milieu du mot, mettre point ES.
Ouais.
D'être arrivé point S et heureux point SE pour que ça soit heureuse. Et là, finalement, on est rendu avec des mots en plein milieu des phrases plutôt qu'à la fin des phrases.
Parce que j'avais des
problèmes de lisibilité. Ça marche plus, là.
J'avais des.
Antonine Iaccarini, t'en penses quoi?
Moi, j'ai une position un peu plate et nuancée sur la question, je dois le dire.
Ben vas-y, t'es souvent nuancée, puis on aime ça.
Bon, écoute, sur le fond, moi, je pense que c'est une bonne chose de clarifier et de donner des lignes directrices. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le free-for-all en bon français. Cela dit, tu sais, quand j'entends le ministre dire « Ah, là, il y avait des heureux points SE, puis des... » Moi, je m'excuse, mais il y a encore quelques années, puis on parlait pas toujours de diversité de genre, mais juste pour être égaux avec les hommes et les femmes, on mettait souvent « heureux » entre parenthèses « SE ». Tu sais, je veux dire, c'est pas là, extrémiste là, de vouloir mettre plusieurs genres, je pense, puis d'essayer d'être inclusif et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a tellement poussé le concept à l'extrême que ça devient à un moment donné un peu illisible. Je pense que ça vaut la peine de faire un effort pour faire sentir les gens inclus dans la vie. Tu sais, moi, par exemple, je vais vraiment parler de manière très, très personnelle, mais si quelqu'un me dit, moi, mon pronom, c'est « Yel », ben, j'ai aucun... Je vais l'utiliser. Je vais faire super attention. Les gens qui mettent les pronoms, par exemple, dans leur signature courriel, je vais respecter ça. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne vais pas mettre mes pronoms dans ma signature courriel. Ça, pour moi, je trouve que c'est un petit peu une tyrannie de la minorité. Je veux juste, tu sais, regarder un petit peu les données, là. Les personnes non-binaires au Québec, ben, c'est estimé être à 0,09% de la population. Il y a les personnes transgenres, 0,14, c'est un petit peu plus. Il faut les inclure, il faut faire des efforts, mais est-ce qu'on doit tous commencer à mettre nos pronoms? Moi, j'ai jamais été trop fan de ça. Je pense que ça appartient à chacun, puis il faut respecter ça. Je donne beaucoup des formations dans la vie. Récemment, l'année passée, j'avais à donner une formation, puis la personne, j'avais vu dans sa signature courriel que c'était une personne qui était non-binaire. Tu sais, ça peut paraître niaiseux, mais j'ai tout adapté mon PowerPoint, tu sais, puis j'ai fait attention, je me suis posé la question comment va recevoir la personne non-binaire mon contenu. Hey, ça ne m'a pas demandé un gros effort. Bon, mm-hmm. Fait que là, ça, c'est ma philosophie par rapport à tout ça. Maintenant, sur la question gouvernementale, bien, c'est correct qu'il y ait des lignes directrices en la matière, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, sur la forme, parce qu'il y a le fond et la forme,
vas-y.
C'est une belle diversion, c'est extraordinaire, parce que, bon, premièrement, c'est sûr que se sont dit, ça va pogner. En ce moment, on le sent, il y a comme une espèce de retour du pendule. On est allé très, très loin dans tout ce qui est EDI, inclusion, etc. Et là, on sent un petit boomerang en ce moment. Il y a des politiciens aussi qui entretiennent ça ouvertement. Je veux dire, à partir du moment quand Donald Trump a annoncé, pour moi, il y a deux sexes. Genres, puis c'est tout. C'est le genre de propos, évidemment, qui vient décomplexer un peu les gens qui avaient des malaises avec toute cette question de la diversité de genre. Le ministre aurait pu envoyer juste une politique à l'interne. Mais il a décidé de quoi? De faire une annonce avec ça.
Oui. Pourquoi? Puis là, il est dans les médias. Il est à Mario Dumont. Il était avec nous un matin. Il était dans Mario Dumont.
Ah, il fait une grande tournée d'entrevue.
Il
là.
A attendu tous les médias avant de rentrer au Conseil des ministres. On le voyait, il faisait
il
la
voulait,
file. Parce
là.
Qu'il disait, hey, je vais vous parler aujourd'hui.
Ah, ouais, c'est clair que se sont dit, hey, ça, c'est bon, le matin, là, on y va. Mais de toute façon, c'est qu'en envoyant ça dans tous les réseaux publics, parce qu'on envoyait ça aussi dans le réseau de l'éducation, ouais. etc., ça allait de toute façon sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, autant prendre le contrôle du message.
En effet.
Surtout que ça allait probablement être quelque chose qui allait être globalement par la majorité assez bien reçu. Je regardais certains titres, il va interdire le YEL. C'est une manière de le présenter très spectaculaire, mais en fait, c'est qu'on se donne des lignes directrices où on dit, on voici qu'est-ce qui est correct d'utiliser pour des fins de clarté. Il faut que ce soit clair, les communications gouvernementales. Moi, je pense pas qu'on doit y voir de l'exclusion nécessairement, mais c'est sûr que le gouvernement l'a joué quand même un peu gros.
L'a joué gros. Avant de passer justement à la communauté LGBTQ+. Plus.
Oui,
pardonnez-moi à la communauté. Est-ce
non, tu vois, t'as fait l'effort.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on aurait tout simplement dû dire on revient comme à l'époque quand c'est féminin puis masculin ensemble, c'est on le conjugue au masculin?
Ah, oh, quel magnifique débat. Moi, encore une fois, avis très, très personnel, je me suis jamais sentie insultée que le masculin l'emporte sur le féminin.
Ouais.
Mais la question se pose. Sauf qu'à partir du moment où on met le masculin, le féminin, ben là, il est arrivé toute cette question de diversité de genre avec les personnes non-binaires et c'est devenu hyper compliqué. Pourquoi? Parce que notre langue est très, très genrée. En anglais, les tables et les chaises n'ont pas de genre.
C'est vrai.
C'est vraiment moins genré. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Nous, tout a un sexe, on dirait. Donc, ça vient ultra complexifier la chose. Exemple, en anglais, on a un mot pour dire des frères et sœurs, c'est « sibling ». C'est pas genré, sibling. Ouais. Ça peut être des gars, des filles, ouais, peu importe. Nous, en français, là, mettons...
C'est frères, sœurs, cousins, cousines, belle-mère, beau-père.
Alors, si
t'as... Belle-sœur, beau-frère.
Un cousin non-binaire, c'est un cousin ou une cousine, une cousienne, un cousiel.
En effet.
Il y a un mot, en passant, je ne le connais pas, mais je l'ai déjà entendu. Mais le fait que notre langue soit hyper genrée, ça a un impact. Par exemple, quand on parle de plusieurs personnes avec différents genres ou dont le genre n'est pas précisé, en anglais, on va dire « they »,« them mm-hmm. ». En français, on a été obligé d'inventer des mots et c'est là que le « yel », notamment, est apparu, ce qui vient encore plus polariser parce qu'on est dans une plus grosse gestion du changement quand on essaie d'être inclusif. Et plus la gestion du changement t'est rentrée dans la gorge à coup d'obligations et de pression sociale, on dirait que moins les gens vont bien réagir. Ça se fait pas tout en douceur, on dirait, cette transition-là, où on essaie d'être un peu plus inclusif sans que ça devienne là, trop lourd pour les gens.
La communauté LGBTQ+, va-t-elle sortir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Bien, premièrement, la communauté, c'est pas pour rien que c'est un arc-en-ciel. Hein? C'est pas un bloc monolithique là, avec une opinion nécessairement. Donc, oui, il risque d'avoir des gens de la communauté au sens très large, qui vont sortir, qui vont trouver que, ben, premièrement, on fait de la politique sur le dos des personnes non-binaires. Parce que
on tente d'aller chercher du capital politique.
Ben oui, puis que c'est un petit peu dans le vent en ce moment, puis que ça vient conforter les gens qui veulent pas trop changer leurs habitudes. Donc moi, je pense que oui, ça va créer des réactions, c'est certain. Maintenant, autant je trouve que c'était pas la priorité de tous les instants pour le gouvernement, là. Mm-hmm. Comme je trouve qu'il y a des affaires plus urgentes dans notre société, évidemment. Autant je pense que ça va être contre-productif de la communauté de vraiment essayer de se battre contre ça. Moi, je pense qu'encore une fois, quand on parle de gestion du changement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut la travailler ensemble. Moi, je pense que les mots évoluent. Il y a des choses qu'on disait il y a 20 ans qu'on ne dit plus et c'est une bonne chose, mais c'est un peu la même chose en matière de diversité de genre. Il faut amener les gens tranquillement. Il faut comprendre aussi que c'est moins facile pour les gens plus âgés. Puis je sais que c'est pas que je veux réduire le ressenti des gens que ça blesse, là, des fois quand ils sont mégenrés, etc. Mais des fois, il faut voir aussi que c'est pas toujours des mauvaises intentions derrière ça.
Mais tu as tellement raison, parce que moi, mes enfants sont nés dans cette mouvance là, du YEL, des médias sociaux, dans la mouvance où même, tu sais, on faisait plus de distinction entre nos différentes nationalités. Donc, c'est juste une mouvance qui, avec le temps, va venir justement... Puis là, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, là, mais va devenir dans la norme.
Ça va faire une fluidité, ça se normalise. Tu sais, des jokes aussi qu'on attendait dans le temps, que les gens n'ont même pas eu écho de la signification quand tu traitais de quelqu'un de newfie. Mm-hmm. Quand tu disais un plan de nègre, il y a des gens qui savaient même pas que c'était raciste.
En effet.
Le disaient parce que ça avait toujours été dans la culture, puis à un moment donné, tu remontes à ça. Mais il y a une certaine fluidité, il y a une compréhension, il y a des choses qui ont été dites. Il y a tellement de grands-parents qui sont doux puis qui veulent comprendre leurs petits-enfants dans leur génération puis leur changement, qui sont maladroits, mais qui ont. Mm-hmm. Je pense qu'il faut avoir cette mentalité-là, peut-être de dire d'abord et avant tout, je pense pas que la personne veut choquer si elle est maladroite.
Généralement, les gens vont pas changer leur comportement si tu leur sens qu'un coup de poing dans la face, OK? Il faut comme que tu les amènes
généralement.
Les faire sentir cons, puis racistes, puis homophobes, puis transphobes. Je pense pas que c'est la bonne approche. Cela dit, je sais que les personnes trans et non-binaires vivent des choses extrêmement difficile. Parmi les personnes les plus vulnérables de notre société,
clairement.
Des taux de détresse, dépression et suicide qui sont aussi plus élevés. Donc,
énormément
je les comprends aussi.
Énormément de rejet. Là.
Absolument. Imagine l'école secondaire.
Au Patro Charlebourg, on a accompagné justement une adolescente qui a fait le processus de changement de sexe, rejetée complètement par son père.
Très difficile pour ces personnes-là qui ont des vécus qu'il faut prendre en considération. Mais c'est ça. Moi, je pense que, par exemple, si j'ai un membre de ma famille plus âgé qui dit un mot qu'on ne dit plus dans la vie, ben, c'est, au lieu de dire franchement, puis ça n'a pas de bon. Tu sais, peut-être juste dire ah, tu sais, on dit plus ça, là, tu sais, de nos jours, on dit ça, tu sais, ça a évolué. Puis je pense que la plupart des gens vont être ouverts. Mais c'est sûr que si tu les traites de cave puis d'arriérés mentaux, je pense pas que les gens vont embarquer dans ton train là, de changement, de gestion du changement.
C'est clair. Je termine le caucus Iaccarini. Ça va être pour introduire la prochaine invitée avec un extrait de l'entrevue avec Napoléon Hou hier sur nos ondes dans Marceau le matin.
Comme ça, quand je vois le monde en arrière de chez nous, là, qui ont toutes eu une éducation, puis parlent la langue, puis des ressources pour les aider, là, pourquoi qu'ils s'en sortent pas?
Reconnaissez-vous que l'itinérance, c'est quand même une problématique qui est plus complexe que j'ai eu de l'éducation. Vu que j'ai eu de l'éducation, je devrais pas être un itinérant. Il y a de la santé mentale là-dedans, il y a de la toxicomanie.
Non, c'est pas si compliqué que ça, là. Faut-tu les reboot de garde?
Comment on fait ça pour les rebooter?
Mais tu les encourages de retourner à l'école, tu leur donnes des ressources. Il y en a qui veulent s'en sortir, mais ils sont pénalisés parce que des groupes communautaires donne aux oiseaux qui crient le plus fort. Il y a des limites à la compassion, l'empathie à l'infini. Là. Il y a des limites à ça. Il y a des limites à des ressources, l'argent.
Pascal Antonine, vous savez, il n'y a rien de mieux de parler avec des gens sur le terrain pour bien comprendre les réalités. Et je la salue, elle est dans le corridor, elle nous attend. On aura Alexandra Doyon, une auditrice de Boulevard 102.1, qui a vécu de l'itinérance pendant 3 ans. Au sorti, c'est une ex-enfant de la DPJ, donc à ses 18 ans, elle a vécu de l'itinérance durant 3 ans. Elle n'est plus en itinérance depuis 5 ans. Elle va venir nous parler de son vécu. Je pense que ça va être la meilleure façon de venir justement clore le fameux débat qui prévaut depuis vendredi dernier.
Faites ouvrir les radios de vos proches, de vos collègues là, pendant la pause. Là, parce que je pense que ça va être très pertinent sur la situation à Québec.
Exactement. Alors, après la pause, on accueille Alexandra Doyon, une auditrice de Boulevard 102.1 qui va venir nous raconter son vécu en itinérance. Restez avec nous, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission L'en jase. L'en
jase. 102.1.
On en jase à Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. 16 degrés sur Québec à l'heure actuelle. Il fait soleil. C'est même 18, je vous ai menti. 20 au maximum. 18 demain avec de la pluie. 22 vendredi alternant soleil et nuages. Et à plus long terme ce week-end, ça va être super beau avec un 19 degrés samedi et un 25 dimanche, Pascal Cévé. Va faire quelle température au Kilimanjaro?
34 degrés soleil plombant.
Quand vous allez arriver?
Oui, les premiers jours, on est là-dedans.
Malade. Donc, encore une fois, bravo, puis let's
Merci.
Go. On y va à fond de train. Pascal, on a une invitée très spéciale. On parle énormément d'itinérance depuis plusieurs jours, notamment depuis la sortie publique de Napoléon Wu vendredi, lorsqu'il s'était joint à l'équipe de Leadership Québec, un mariage qui n'a pas duré très longtemps, en raison de ses propos justement sur l'itinérance. Et on a Alexandra, une auditrice, qui nous a dit « Hey, moi, je vais venir vous en parler d'itinérance. »
Je trouve ça super pertinent parce que dans la publication qu'on a fait sur la page Facebook de BLVD, là, 102.1, il y avait quelqu'un, une auditrice, qui avait dit « Ah, tu sais, on a entendu sa maman là-dessus, on a entendu M. Wu là-dessus, mais est-ce qu'on a entendu quelqu'un du domaine et tout ça? » Puis moi, automatiquement, j'ai répondu quand je viens de le voir. Oui, puis on a reçu quelqu'un, le directeur de pêche.
Benoît Côté.
Exactement. Puis j'ai dit « Connectez-vous parce que dans les prochaines minutes, il y a une personne qui va pouvoir nous en parler en l'ayant vécu. »
Exactement. On a le plaisir d'avoir avec nous en studio Alexandra Doyon. Alexandra, comment ça va?
Hey, ça va bien.
Oui, parfait. Oui, ça va très bien. Pas trop nerveuse?
Un petit peu, c'est sûr.
Mais merci de faire ça, hein, parce que c'est rare qu'on a accès à une vulnérabilité comme celle-là.
Exactement.
Puis quelqu'un qui vient nous raconter les choses.
Tu vas en inspirer beaucoup, je suis convaincu. Alexandra, si on commence, toi, tu me racontais au téléphone là, avant l'entrevue, tu es une enfant de la DPJ, c'est bien ça?
Oui, depuis mes 12 ans.
OK, que tu as voyagé parmi plusieurs familles d'accueil, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, moi j'ai fait... une tentative à 12 ans.
OK.
Puis après ça, la DPJ, il y a eu un signalement. Puis j'ai resté avec des idées suicidaires pas mal tout le long de mon enfance. Ce qui fait en sorte que la famille d'accueil est arrivée, ça n'a pas été long. Une famille d'accueil d'urgence, qu'on appelle, à la DPJ. C'est une famille que quand que la personne n'est plus bien chez eux, elle va comme prendre un break dans une famille
qui est toujours
ailleurs.
Prête à recevoir quelqu'un. Ouais. C'est un peu la zone tampon entre une adoption.
Un peu comme un agent de garde.
Oui, puis la famille dans laquelle, mettons, quelqu'un vit, c'est ça?
Oui, c'est ça. Puis juste après, à 15 ans, trouble de comportement, drogue, nommez qu'est-ce que vous voulez, je l'avais.
Drogue beaucoup reliée à ton mal de vivre, j'imagine?
À mon mal de vivre, la famille dysfonctionnelle que j'avais. Okay.
T'étais-tu consciente à ce moment-là que c'était ça qui te faisait consommer?
Totalement.
Tu voulais oublier?
Je voulais l'oublier, plus que d'autres choses.
Puis par la consommation, ça te donnait un break, c'est ça qu'on comprend?
Oui, puis par exemple, la famille d'accueil à 14 ans, ça m'a donné un break, pour vrai.
Un break de ta famille,
break.
Dans le fond? Ou...
Oui, un vrai break de la vie que j'avais dans ma famille dysfonctionnelle.
Ça a bien été, donc, avec la famille à 14 ans.
Je voulais rester.
OK, c'est un milieu familial comme tu n'avais jamais vécu.
Si je serais resté là, j'aurais jamais été dans l'itinérance.
Okay. Pourquoi on t'a sorti de là?
parce que c'est une famille d'urgence.
C'est la famille tampon dont on parlait.
Ouais.
Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on te renvoie toujours dans ta famille qui est dysfonctionnelle ou on tente de trouver une famille d'accueil à long terme?
On me renvoie chez nous, dans ma famille dysfonctionnelle. On essaye d'aider la mère monoparentale qui essaye de dealer avec ça, là, mm-hmm. On va dire.
Vous étiez combien d'enfants?
Trois enfants. Ce qui est gros
Pour une mère monoparentale. Pour une mère monoparentale. Qui a peut-être pas les outils.
Puis juste dans notre société aussi.
Oui, à la base, t'as bien raison. À la base. Toi, t'es quel rang dans ta fratrie? La plus vieille. OK. Fait que est-ce que tu sentais en plus que t'avais une charge sur tes frères et sœurs?
Totalement. Moi, à 12 ans, là, je faisais tout. Ma mère, elle dormait dans sa chambre. Puis elle me disait à moi de faire toutes les tâches ménagères. Elle disait à mon frère et ma soeur d'aller jouer dehors. Et après, ben, quand que j'avais fini, ben, j'allais jouer dehors avec mon frère et ma soeur. Pendant qu'elle dormait, elle était sur l'aide sociale.
C'était quoi la...
J'aime pas ça parce que je veux...
Non, je comprends.
J'aime pas ça parler en mal de ma mère. Mm-hmm. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Sauf que... C'est la vérité.
Elle manquait d'outils.
C'est la vérité, puis c'est vrai. C'est totalement... Mm-hmm. Le fait qu'elle manquait d'outils.
Quelle est la différence d'âge avec frère et soeur?
Quasiment 5 ans. Okay. Je dirais 4 ans et demi.
Parfait.
Plus. Puis 6 ans. Pile.
OK, fait qu'il était vraiment plus jeune là, quand tu avais 12 ans, ouais. À ce moment-là. Tu t'occupais vraiment d'enfants là, qui étaient plus jeunes.
À 7 ans, je donnais le biberon à ma soeur. C'était un beau moment, pour vrai.
Ça t'apaisait. Oh, wow.
Ça m'apaisait.
C'est particulier parce que ce que tu évoques d'être un peu en déchirure entre l'amour que tu portes à ta mère parce que tu dis que c'est une belle personne, mais la réalisation de savoir que tu n'es pas dans une famille qui est parfaite pour ton évolution, au-delà de parfaite, qui est bonne pour ton évolution personnelle.
Tout simplement.
Ça doit être difficile à vivre au quotidien. Ça. As-tu l'impression de trahir ta mère quand tu souhaitais à ce moment-là vouloir être ailleurs?
Vraiment. Dans mon fond, t'es fort intérieur, là. Quand que je disais que je pense que c'est ma marraine, ma tante, qui est ma mère, je pense. Je pense qu'on s'est trompé de famille. Quand que je dis je veux rester dans la famille d'accueil, dans mon fort intérieur, ça fait mal. Vraiment mal.
Mais ça doit être déchirant aussi.
Ça vient fucker le cerveau d'un enfant de 8 ans, de 12 ans, n'importe quel âge. C'est un enfant qui n'a pas un cerveau totalement développé. Va avoir des répercussions, c'est certain.
Tu m'as parlé au téléphone aussi de violence conjugale que tu as vécue dans ta famille. Comment c'est arrivé tout ça?
Comme je te disais au téléphone, il y a des choses qui ont favorisé le fait que j'ai rentré dans l'itinérance. Il y a des choses qui ont favorisé le fait que j'ai resté dans l'itinérance. La violence conjugale, ça a favorisé le fait que je suis resté dans l'itinérance, par exemple.
Pourquoi? C'est
parce que quand que tu commences à avoir une relation, il y a quelqu'un qui te donne un toit, mais qu'il te fait vivre l'enfer. Toi, tu veux t'en aller, mais t'as pas de ressources. Ils sont où les ressources? Voulez-vous savoir comment que j'ai dégagé de chez lui?
Mm-hmm. Ouais, vas-y.
Moi, j'ai dégagé en silence. Pendant un moment qu'il était de bonne humeur. Il était dans la douche. J'ai dégagé.
T'as quitté l'endroit où t'habitais?
Parce que c'était pas séquestré. Il y avait pas de cadenas à la porte. Il était dans une bonne humeur.
Là, tu savais que c'était ton moment pour quitter.
Ouais.
Mais à ce moment-là, tu t'en allais nulle part.
Ben non. J'avais un téléphone. J'ai appelé des maisons, là.
Pour les aides de femmes, pour les victimes de violences conjugales. OK.
Soit ils n'ont pas de place.
OK, ils sont pleines.
Soit ils sont pleines, soit t'es plus là. T'es plus en danger. Anecdote. Je me suis fait suivre par ce gars-là. Quand j'étais parti, là, il m'a écrit. Moi, j'ai pas fait attention à ce texto-là. Mais je vais me promener un petit peu plus en ville. Mon ami me le voit en arrière de nous autres. Je regarde, c'est lui.
Il te cherchait.
Il me cherchait. Je l'ignorais. Quand que j'y ai parlé, j'ai dit, je veux pas rien savoir de toi. Lui, sa réaction, ça a été de me cracher dans la face.
Toi, t'étais dans la rue à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Fait que t'es arrivé dans la rue dans un contexte de fuite de violence conjugale où, à la base, t'avais pas de famille pour t'héberger, pour t'aider parce que tu venais d'un milieu
dysfonctionnel. Non, puis tout le monde me disait non, là.
OK. Mm-hmm. Donc là, toi, ta solution, c'était la rue. Et à partir de ce moment-là, quand tu mets le pied dehors, là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu t'en vas où? Tu dors dehors? Tu dors?
Moi, là, personnellement, là, oui, j'ai déjà gelé. J'ai déjà... Mais je faisais tous les efforts possibles pour trouver, par exemple, des ressources temporaires, parce que c'est ça qu'il y a. Mm-hmm. Il n'y a pas de ressources qui t'aident à t'en sortir. Puis des ressources plus à longue durée,
okay.
Puis là, qui donne le temps de t'en sortir.
Puis là, tu nous racontais justement que, bon, les maisons pour aider les femmes, il n'y avait plus de place. Tu te retrouves à la rue, tu te fais cracher dans le visage. Des ressources temporaires. Dans quelles ressources temporaires t'allais? T'allais-tu, par exemple, à la maison L'Aubrivière? Qu'est-ce que tu faisais comme démarche?
L'Aubrivière, faite par les femmes, pour les femmes.
Mm-hmm.
Projet Lune.
Oui.
Que j'ai très, très aimé.
Ça a failli fermer à un moment donné.
Parce que on arrive à 6 heures le soir, on part à midi le lendemain.
Ça te donne le temps de t'apaiser, de te poser.
Oui, ça me donne le temps de...
Il y a des intervenantes aussi, oui. Là-bas, à Projet Lune.
24 heures sur 24. Tout le temps qui s'est ouvert.
Okay. Mais c'est quand même un genre de 12 heures, là,
environ. Non, quand même, oui.
Toi, ce que tu déplores, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit où on peut t'aider à avoir un refuge pendant une semaine, peut-être deux semaines, juste le
non,
temps
même
de...
pas, même pas.
Même pas?
Parce qu'il y en a.
OK.
Il y en a. De ça. Mais c'est pas tout le monde qui trouve quelque chose dans le même moment, dans le même temps.
Ta période d'itinérance a duré pendant 3 ans?
De 19 à 23.
De 19 à 23, fait que pendant 4 ans. Comment tu meubles tes journées à ce moment-là? Tu te promènes où? Tu couches où? Qu'est-ce...
Moi, j'étais nomade. Je me promenais beaucoup. J'allais voir tout le monde. Ce qui n'était pas nécessairement bon.
T'allais voir tout le monde, les organismes ou...
Non. Les autres personnes, les autres itinérants.
OK.
Je parlais à tout le monde. Sauf que je faisais en sorte que le plus possible d'avoir la ressource le soir pour dormir. Des fois, j'ai pas eu ça. C'est sûr, souvent.
Mm-hmm. Puis comment ça se passe quand on dort dans la rue? Tu t'installes où? Ça marche comment?
Tu trouves des spots. Tu trouves des spots, puis que la police n'est pas de temps, elle va pas tant là. Comme par exemple à Granby. Moi, je dormais entre le palais de justice et l'autre bâtiment.
Tu n'as pas été à Québec tout le long, c'est ça qu'on comprend?
Non, je suis nomade.
Okay.
J'ai été dans plusieurs villes.
OK, nomade étant plusieurs villes et pas juste dans certains secteurs.
Puis dans les villes, ben, je parlais à tout le monde.
Okay.
J'allais partout.
Tu fuyais en faisant du pouce?
Non. Moi, je fuyais soit en autobus. Vous savez, l'Orléans Express.
Mm-hmm. Tu ramassais de l'argent dans la rue pour te sauver?
Non, moi, j'avais... C'est à cause que moi, j'avais un chèque de BS depuis mes 18 ans. J'avais déjà ça. Ce qui m'aidait quand même bien, beaucoup. Même si ça allait beaucoup dans la drogue, j'en avais assez. Quand même pour vivre.
Il ne faut pas un loyer, une adresse pour être capable d'avoir ce chèque-là d'aide sociale?
Je m'en trouvais une. Un organisme quelconque dans la ville où j'étais.
OK.
Comme Projet Lune à Québec.
Dans l'itinérance, là, comment est-ce que les gens te regardaient? Comment est-ce que les gens t'abordaient? Pour ceux qui vivaient le quotidien dans une toute autre réalité.
Ceux qui étaient... avec une job et un toit et tout. Plusieurs réactions. Ceux qui sont comme ignorants. Ignorent, tout simplement. Non, moi, je veux rien savoir de toi.
Ça fait-tu mal, ça?
au début. Mais quand je peux vous le dire, après un certain temps, toi aussi, tu t'en fous. Toi aussi, tu t'en fous de ça, puis tu passes à quelqu'un d'autre.
T'avais-tu, comme... t'avais-tu des gens bienveillants aussi envers toi?
Non. Non. Ça, je parlais à tout le monde, sauf qu'il n'y avait personne qui m'aidait pour m'en sortir.
Quand tu dis qu'il y avait toutes sortes de réactions face à toi en situation d'itinérance, puis en, au fait que tu les approchais, ou c'était quoi les autres réactions?
Il y avait ceux aussi qui étaient comme... je dirais pas... oui, empathiques, mais ils ont pitié. Ils ont pitié de moi. Puis ils font qu'est-ce qu'ils peuvent pour m'aider. Un petit 2$, un petit 5$.
Sentais-tu qu'on te jugeait pour la consommation? Sentais-tu que les gens te diminuaient au fait que tu consommais, dans le sens où t'as-tu l'impression qu'on te disait « Ah, ben cette fille-là est dans la rue parce qu'elle a consommé et elle n'a pas d'argent pour ça? » T'avais-tu envie de crier ton histoire de violence conjugale, ton histoire d'enfance à ce moment-là?
J'ai toujours eu ce besoin-là en moi.
Tu l'avais de pris en dedans, puis tu voulais crier à quel point t'étais malheureuse?
Oui, puis là, je veux crier. Là, j'ai le besoin de crier du fait que il y en a d'autres qui sont comme moi, dans la rue, qui sont malheureux, puis qu'ils ont besoin d'aide.
Puis qu'ils sont pas juste dans la rue à cause de la consommation.
Oui, qu'il y a d'autres, il y a des histoires, santé mentale, violence conjugale, enfance pas normale.
Qui t'a rencontré, qui t'a marqué dans la rue? Quelqu'un qui était aussi en situation d'itinérance, tu te rappelles de son histoire?
Il y en a un, oui, à Granby. Lui, il était pas dans l'itinérance, il a pas tout le temps été. Lui, c'est la malchance qui l'a mené à l'itinérance, sa famille. Il s'appelle Maxime Deslandes. Ça me dérange pas de prononcer son nom. Hein. Là, il est rendu, il s'en est sorti. Je suis contente. Pour vrai. Ça a été quelqu'un qui m'a... Une des seules personnes qui a été positive pour moi. Même s'il consommait. Même si, ben, il était positif pour moi, mentalement. Ça m'aidait à progresser, à être plus persévérante, à faire en sorte de faire plus d'efforts pour m'en sortir. Puis de, si ça marche pas lâcher. Puis continuer, réessayer. C'est ça que j'ai fait.
Avant de passer à l'étape, parce qu'on veut aussi parler de cette étape-là, tu t'en es sorti de l'itinérance. Tu as réussi justement, après 4 ans d'itinérance, à t'en sortir. Deux questions d'auditeurs. La première, qu'est-ce qui a fait en sorte que Alexandra, 12 ans, qui avait déjà eu des idées suicidaires, est passée à travers ces 4 années-là tellement tough en itinérance?
Tu me laisses un petit 2 secondes pour penser à mes mots.
Je te laisse toutes les secondes okay. que tu as besoin. En attendant, tu as énormément d'amour des auditeurs. Hein.
Puis vous pouvez continuer d'écrire en 418-971.
Un gros merci, vous êtes très gentil. C'est une goutte broyée.
C'est correct.
Parce que c'est ça que je veux que ça fasse. Que je transmette les messages. Mm-hmm. Je sais pas si j'ai trop chuchoté, mais non. Je transmette le message.
Puis qu'est-ce qui t'a accroché justement pendant ces 4 ans-là?
Je savais qu'il y avait quelque chose de mieux. Puis que Dieu me réservait. Excusez-moi la religion. Là.
T'avais une croyance.
Mais non, c'est pas ça. C'est juste pour dire, je sais qu'il y a quelque chose qui va s'en venir pour moi. Je crois. C'est la croix. C'est croire en toi qu'il faut faire.
Toi, tu avais cette facilité-là avant d'aller dans le parcours de pourquoi tu es sorti, là. Mais il y en a d'autres qui restent dans la rue toute leur vie puis qui n'ont pas ce genre de fougue-là que tu as eu de te dire « Je vais m'en sortir, il y a quelque chose qui m'attend. » Pourquoi tu penses que ces gens-là sont éteints?
sont peut-être rendus à une autre étape. Ils sont rendus plus loin. Plus loin dans leur tête. Plus loin dans leur physique. Ils ont plus la force physique ou mentale de s'en sortir, tout simplement. C'est là que je dis que chaque itinérant a besoin d'un temps différent pour s'en sortir. Et c'est là que je dis qu'il manque de ressources de ce genre-là, qui donne, par exemple, 6 mois à quelqu'un pour s'en sortir. Et non 1 mois, 2 semaines.
Mm-hmm. C'est-tu vrai que c'est facile s'en sortir de l'itinérance?
0 pin-bar.
Raconte-nous comment ça a été difficile pour toi.
J'ai fait plusieurs séjours dans des hébergements qui ont rien donné partout, pas juste à Québec, pas juste à l'Aubrivière. Toutes les maisons qu'il y avait ailleurs, les maisons de violence conjugale, personnes en difficulté, mais c'était jamais assez long. J'avais jamais les bonnes affaires qui pour m'aider. Moi, je peux dire que ça a pris un entourage pour m'en sortir.
C'était qui ces gens-là?
Une personne. C'est mon conjoint.
Tu l'as connu dans la rue?
Je l'ai connu. C'est bizarre, c'est une anecdote. Je l'ai connu sur un site où que pour des one night. Parce que j'aimais bien ça, le sexe. Ça, je suis authentique, je suis honnête. Je dis pas de la merde. Fait que je l'ai rencontré là. Mon ex, on a fait 3 jours de sexe intense, puis après ça, mon ex m'appelle, me dit, je te crisse dehors, t'en reviens pas. OK, c'est bon. Je vais retourner dans la rue d'abord. Puis mon conjoint a dit, non, toi tu restes avec moi. Je vais t'aider à t'en sortir.
Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais comme action pour t'en sortir?
J'arrête tout ce qui est négatif pour moi. Tout ce qui est nuisible. Comme là, présentement, je fais juste fumer du pot de temps en temps.
Ça a été graduel d'arrêter
toutes les drogues. Je faisais toutes les drogues.
OK.
J'ai arrêté un à un, mais d'une façon sec.
Parce que tu te sentais aimé? Parce que tu voulais pas perdre
parce
ça?
Que oui, il y avait ça, c'est sûr. Je me sentais aimé. Je me sentais à ma valeur. À ma valeur. Ce que les itinérants ont pas. La majorité. Et qu'ils ont besoin pour s'en sortir. Parce que, comme vous dites, excusez-moi, la majorité des itinérants ont pas aucun support. Puis, proche, là, je dis pas juste la famille, des amis qui veulent que tu t'en sortes, des conjoints et conjointes qui veulent que tu t'en sortes. Non, ils ont pas ça. Puis t'as besoin de ça pour t'en sortir. Ou sinon, ça va être dur. Ça va être extrêmement dur. Parce que ça a été ça pendant 4 ans pour moi. Parce que moi, j'essayais. Ça marchait pas. Je réessayais. Mais il manquait tout le temps quelque chose.
Petite parenthèse, t'es retourné chez ton ex-conjoint violent à un moment. C'est ça qu'on comprend, ça veut dire.
Oui, j'y suis retourné. Et je m'en veux.
Sois pas honteuse de ça.
Non.
Tu y es retournée parce que c'était un toi?
Parce que je l'aimais aussi.
T'avais un peu cet amour-là aussi.
Mais oui. C'était pas juste... J'avais un toi, là.
OK.
T'as recherché énormément l'amour.
Oui, oui. C'est un itinérant, c'est pas comme... différent d'une personne qui a un toi, là. C'est c'est juste pour le toit que tu vas...
Non, mais ça aurait pu, tu sais. Mais c'était un mélange de plein de choses.
Mais c'est... Non. Moi, c'était vraiment l'amour qui m'a tourné.
OK.
Maintenant, t'es allé avec ton conjoint actuel, t'as trouvé l'amour, t'as dit « je vais me sortir de l'itinérance ». Tu nous parles « j'ai arrêté de consommer », première étape. Quelles sont les autres étapes si tu veux justement bien guider les gens présentement qui sont justement dans la situation dans laquelle tu as vécu pendant 4 ans?
Moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est « travaille sur toi ». Travaille sur ton estime. Travaille sur tes problèmes de comportement. Essaye de délocaliser tes comportements négatifs. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'en allais dans t'as retourné dans l'itinérance si tu as essayé? Ou si tu restes dans l'itinérance, c'est pour quelle raison? Quel comportement? C'est juste localise-les.
Avais-tu des problèmes de comportement, toi, justement, quand tu étais dans des ressources qui faisaient en sorte qu'on abandonnait avec toi?
Je suis un petit peu insistant, je peux dire. Je suis un petit peu insistant. Je suis très... On peut dire... j'ai le moulin à parole facile, etc. Moi, c'est ces problèmes-là.
L'impulsivité.
Dépendance. Okay. Affective. Je te dirais.
Ça vient souvent de milieu dysfonctionnel, là. De chercher sa place.
Ben oui, c'est
de chercher dans les yeux de qui on va être valide, vu, entendu, qu'on va exister, tu sais. Il y a beaucoup de textos aussi par rapport au fait de se respecter soi-même. Moi, je peux pas passer à côté de ta situation, ton enfance dans le contexte. Il y en a plusieurs des enfants qui vivent en ce moment et qui ont vécu ce que tu as vécu. Ça laisse des traces. Tu as encore de l'affection pour ta mère. Tu comprends qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas la boîte à outils pour être parents. Tu as eu un discours très valorisant auprès de la DPJ, mais ça vient souvent être contrecarré, des fois avec d'autres histoires qui sont plus négatives, t'sais, dans l'actualité.
Ça, je le sais très bien. Je sais très bien que la DPJ a son côté sombre. A son côté sombre aussi. Et je le nie pas. Parce que ça a été... Elle a fait son côté sombre de mon cas, pour mon cas aussi. Là. Je valorise pas juste la DPJ. Je valorise... C'est pas la DPJ qui valorise. C'est la famille d'accueil.
Mm-hmm.
À 14 ans. La DPJ, ça, je peux la... Ça, je peux taper dessus.
Sur des choses.
Sur des choses.
Mais la famille qu'on t'a donnée, la famille tampon, là...
La première, oui, la tampon, là.
Crois-tu que c'est là où t'as eu le premier espoir qu'il y avait d'autres choses pour toi dans la vie?
Toujours.
À ce moment-là?
Oui.
D'être chez des gens aimants, en sécurité?
Oui, puis que je savais que j'allais bien grandir.
OK.
Je savais que j'allais bien évoluer.
Tes frères et sœurs sont où maintenant?
Eux ont eu une... à part un petit bout pour ma sœur, mais après ça, ils ont eu une évolution très différente que moi.
OK.
Et quel type d'évolution?
Dans les médias sociaux.
OK.
Ce que j'ai...
Travaille là-dedans?
Hein?
Non, je veux dire, non, ta sœur, ton frère.
Non, pas que, qu'ils travaillent là-dedans, mais qu'ils ont vécu avec le Facebook, le Xbox... Le Twitter.
OK,
pas Twitter, mais X.
Tu penses... Et ça, TikTok. Ça a amené quoi?
Ça a amené que... C'est comme si j'étais dans une autre génération.
T'as l'impression que eux, c'était leur échappatoire à ce moment-là?
Non.
Et que toi, t'aurais aimé ça? On essaie de...
Excuse-moi. Ouais.
Pourquoi est-ce que tu penses que leur futur à eux était différent du tien?
Ils ont eu une éducation différente. Que moi, par exemple. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses de la même manière et ils ont évolué d'une autre façon à cause de ça.
Ils n'ont pas vécu la pression sûrement. Tu avais de la pression quand même
aussi,
de t'occuper
mais
d'eux.
Il y a vraiment le fait des réseaux sociaux.
Okay.
Qu'eux étaient plus connectés au monde.
Ah, c'est ça. Il y avait des gens qui parlaient.
Parce que nous, on a tout le temps habiter dans des petits villages, dans la campagne éloignée. Fait que moi, vu que je pouvais pas, j'avais pas le droit à ça, à cause d'une raison particulière que je vais vous dire après, ben j'ai évolué différemment. J'ai été déconnecté du monde. Moi, là, je suis encore en 2015, c'est pour vous dire, pour les technologies. J'ai utilisé ChatGPT 10 fois pour 10 questions nowhere.
C'est pas grave, ça. Il y en a plein qui sont encore en 2012. Même nous autres, on n'est pas les meilleurs. Faites-moi ça pas avec ça.
Ouais, mais moi, j'ai 26 ans.
Ouais, c'est pas grave.
C'est pas grave.
On te pose deux, trois questions pour terminer. Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours été à la recherche de l'amour de ta mère?
Oui. Oui. Toujours. Je suis toujours.
Es-tu capable d'y en parler?
Hey, maman. Salut. J'espère que ça va bien. Tu sais bien que je t'aime, hein? Je t'aime. J'aimerais ça que tu puisses m'aimer autant que je t'aime. Que tu gardes contact avec moi, que tu reprennes confiance en moi, s'il vous plaît. Merci.
Je suis certain que le message a été entendu, Alexandra.
Juste une dernière chose.
Vas-y.
Voulez-vous savoir c'est quoi la raison particulière?
Comme tu le sais.
Ma santé. Ça n'a jamais été de mon bord. Depuis ma naissance. Ça m'a pas aidé. Ça m'a aidé à être itinérante en tabarnak. Quand t'es épileptique, mauvais développement, quand t'es dans le bedon de ta mère. C'est dur à vivre pour un enfant, pour un adolescent, autant que pour une adulte, de vivre avec cette putain de maladie silencieuse. J'ai de l'air normal, là. À un moment donné, je peux faire la crise du bacon. Je peux partir. Bye-bye. J'ai même une cicatrice ici. J'ai été opéré. Je prends autant de médicaments.
On n'a pas pris soin de ça non plus dans ta jeunesse.
Ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait. Là, c'est là-dessus que je peux la remercier. C'est là-dessus que je peux la remercier. À ma naissance, 95% de chance d'être légume. Alors, elle m'a aidé là-dessus, puis je la remercie. Sauf que ça n'a pas aidé à ma distance.
Alexandra, c'est fou les messages qui rentrent par texto. T'es pas tout seul. Plein de gens qui sont avec toi. Continue ton parcours incroyable. T'es inspirante, ça n'a aucun bon sens.
Quelle force d'esprit.
Ah, c'est fou. Je suis certain que tu viens de permettre à des gens qui sont à l'écoute de se prendre en main et de faire le pas peut-être qu'ils hésitaient à faire. Félicitations pour ton courage, ma fille.
Ben, je dis merci à tous les auditeurs. À tous les auditeurs. Aussi de m'avoir écouté et que vous puissiez transmettre le message. Si vous avez ou vous êtes dans l'itinérance, si vous avez des proches ou vous êtes dans l'itinérance, de transmettre le message à ceux qui ne l'ont pas écouté.
Moi, tu me touches carrément sur l'amour, là.
Ah oui.
Moi, je trouve ça déchirant. Que toute petite, tu as eu à être déchirée entre toute l'affection que tu portais pour ta mère. Tu as encore énormément de respect pour elle, même si tu savais qu'elle n'avait pas les outils puis que tu étais en train de te détruire, toi, dans ton développement, dans cette famille-là. L'amour que tu as eu pour cette famille tampon-là que tu as nommée. Puis je veux, parce que ta résilience, ta force. Moi, je me demande, y a-t-il un parcours? C'est sûr, tu as rencontré des intervenants. Je pense à ton conjoint actuel qui a été une belle lumière dans ta vie, à cette famille tampon-là. Je pense à Maxime, un autre itinérant dont tu nous as parlé, qui a eu un impact sur t'aider à continuer de voir clair puis de foncer. Il y a tellement d'amour bien placé dans un regard, dans deux, trois phrases. dans l'humanité, dans ce que tu nous as nommé, que c'est, ça me touche particulièrement parce que je pense que c'est un tout qui fait que, Alexandra, aujourd'hui, t'as écrit quand on parlait de tous ces phénomènes-là, Jeff et moi, puis t'as dit, hey, moi, je suis une de vos auditrices, puis je peux vous en parler, tu sais, puis que t'as cette vulnérabilité. On l'a pas dit, mais on le sait que t'es nerveuse, on sait que ça t'a pris beaucoup, mais que tu le faisais avec ton cœur. Je salue tous ces gens qui ont été aussi dans ta vie, qui t'ont entouré, qui t'ont donné cette chance-là.
Puis, si je peux ajouter...
Vas-y.
Si vous avez une famille dysfonctionnelle, moi, j'ai un conseil pour vous. Construisez la vôtre.
C'est bien dit.
T'es-tu là-dedans?
Oui.
Tu fais ton foyer aimant?
Oui.
Félicitations.
Ouais. Alexandra, merci. Merci infiniment d'avoir eu le courage d'être venue nous voir.
En espérant de pouvoir revenir.
La porte est ouverte.
Merci.
Good. Passe une belle fin de journée. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase de 1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h. On en jase.
Bon. Pascal CV, je ne sais pas pour toi, mais moi, ma journée vient de prendre un tournant que...
Ouf!
Ouais, regarde le dire en même temps. Ouf!
C'est touchant.
Oh, Seigneur. Et c'est le cas de nos auditeurs également. Merci pour vos beaux mots en passant. 418-971-1021.
C'est surtout ça. Merci. Ah, de. Oui. Honnêtement, je suis particulièrement touchée de ceux qui nous écoutent parce que c'est stéréotypé, c'est difficile, c'est de la misère humaine, c'est des parcours qui sont totalement différents des nôtres, mais qui nous rejoignent tous à quelque part, étrangement, mais réalistement. Puis la façon dont vous avez reçu et pris le temps d'écouter le discours d'Alexandra,
incroyable,
de nous écrire. On a plein de nouveaux textos, des gens qui n'avaient jamais pris le temps.
T'as raison.
Ça ouvre la porte sur à quel point on peut aller loin avec vous, qu'on peut se pencher sur des dossiers peut-être un petit peu plus sensibles.
Clairement.
Ça, c'est un méchant beau cadeau que vous faites à tout le monde, les auditeurs.
Oui, et ça fait énormément de bien avec les discours qu'on a entendus dans les derniers 4-5 jours à propos de l'itinérance et que c'était facile de s'en sortir. Puis voyons donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là? Oh, que ça fait du bien, votre dose d'amour, amis auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là avec nous. On s'en va rejoindre de ce pas un chroniqueur qu'on adore, Lambert Drainville, chroniqueur politique et excellent vulgarisateur. Lambert, comment vas-tu?
Ça va bien, très touché, comme vos auditeurs du segment qu'on vient d'entendre, là, Madame Alexandra. On lui envoie une grosse dose d'amour et nos meilleures énergies pour la suite.
Vraiment, courage exceptionnel.
Ouais.
Il n'y a pas de doute. Lambert, on revient sur le plancher des vaches en politique. Il y a une guerre ouverte entre les médecins et le gouvernement du Québec. Pendant le témoignage d'Alexandra, c'est sorti. Le gouvernement refuse d'aller en arbitrage. Peux-tu nous expliquer, là, c'est quoi les tenants et aboutissants là, de cette guerre ouverte-là là, entre la CAQ et nos médecins, tant spécialistes comme Nipratien?
Oui, c'est ça. Ben, écoute, je vais dresser un portrait un petit peu complet de la situation. Je vais parler que de ça aujourd'hui pour que les gens qui sont à l'écoute puissent se faire une tête. Et moi, je vais essayer de garder l'intégrale de tout ça, mettre ça sur mes médias sociaux pour que les gens qui s'y perdent un peu. Là, parce que entre toi et moi, comme c'est souvent le cas avec les négociations syndicales, il y a la partie gouvernementale, il y a la partie syndicale qui s'envoie la balle.
Puis là, ils disent tout quelque chose et son contraire. On ne comprend plus rien.
C'est comme une bataille de l'opinion publique. Nous autres, on est comme des spectateurs d'une game de tennis. Puis là, on regarde ça de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Puis on ne sait pas trop qui c'est qui dit vrai, qui c'est qui dit pas vrai. Moi, c'est pas compliqué, là. Je sais pas où cette hostifie de table-là de négociation. Mais je t'aveugle d'aller chercher les deux bords, de le gouvernement puis les syndicats, des asseoir, puis les laisser dans la pièce jusqu'à temps que ce soit réglé, comme maman faisait quand j'étais jeune, sans me laisser me lever de table avant que j'aie fini mes petits légumes, là, tu sais. Sérieusement, c'est comme, tu sais, là, il y en a un bord, il y a un bord qui dit là, ils sont pas assez à table. L'autre bord, c'est les autres qui sont pas assez à table.
Là, finalement, qu'est-ce que les médecins veulent, puis qu'est-ce que le gouvernement veut? Explique-nous ça.
Ben, c'est ça. On va rentrer dans l'essentiel. Le projet de loi 106, c'est ça qui est le nœud du problème. Qu'est-ce que ça change en gros, ce projet de loi-là? bien, un des gros changements, c'est une prise en charge collective sur un territoire. Fait que mettons que tu as un territoire, tu sais, présentement, les médecins sont affiliés à une liste de patients qui leur est attribuée. Bien là, maintenant, sur un territoire donné, par exemple en Abitibi, bien, si tu as 10 médecins de famille en Abitibi, bien, c'est l'ensemble de ces 10 médecins-là qui seraient responsables de toute la population desservie en Abitibi au lieu que ce soit médecin par médecin. Ça, c'est le premier gros changement. Deuxième changement qui est vraiment le nœud du problème d'où on en est aujourd'hui, c'est la nouvelle façon de rémunérer les médecins. C'est ça que le gouvernement veut mettre en place. Donc, d'un côté, on introduit ce qu'on appelle la capitation, fait que les médecins vont recevoir un montant fixe. Ce sera plus simplement au nombre d'actes médicaux, de chirurgie, de rendez-vous qui sont pris, mais maintenant, il va y avoir un facteur de vulnérabilité qui va entrer en ligne de compte, qui va changer la façon dont les médecins sont payés. Et il y a aussi une partie de leur rémunération qui va être liés à des objectifs. Par exemple, réduire les délais d'attente. Au début, quand le projet de loi a été déposé, c'était 25 % de la rémunération, donc de tout ce que les médecins gagnent, qui était lié à ces objectifs-là. Et le ministre a mis de l'eau dans son vin, a fait descendre ça à désormais 15 % de la rémunération qui est liée aux indicateurs de performance. Donc, du côté du gouvernement, on dit... On tient mordicus au projet de loi 106. On dit que ça fait 50 ans que le gouvernement essaie de changer la façon dont les médecins sont payés au Québec et que personne n'y est parvenu. Eux autres, le premier ministre, le ministre de la Santé, M. Dubé, disent qu'ils ne reculeront pas. Dans les derniers jours, le gouvernement, comme je disais, a mis de l'eau dans son vin, a fait passer d'abord l'aspect de la rémunération qui est liée aux indicateurs de performance de 25 à 15 %, comme je disais. Ça, concrètement, ce que ça veut dire, là, pour un médecin qui ne va pas atteindre aucune des cibles qui lui sont demandées, il perdrait un maximum de 9 % de sa rémunération. Donc, si on regarde le concret de ce que ça va changer, tout ça, là, un médecin qui atteindrait zéro comme dans Ouellet, là, les cibles, il perdrait un maximum de 9 % de sa rémunération. Et après ça, moi, je dresse un portrait de la situation, puis les gens se font leur propre tête sur la situation, mais moi, je dresse les faits.
Les médecins sont fâchés de ça. Lambert, c'est quoi les demandes concrètes des médecins? Tu viens de bien nous expliquer les demandes du gouvernement.
Bien, du côté des syndicats, puis je tiens à dire, c'est du côté des syndicats de médecins. C'est important de le dire. C'est pas nécessairement tous les médecins. Bien, eux autres, il n'est pas question de lier la rémunération à la performance. C'est impensable que ça passe par un projet de loi. Évidemment, le gouvernement, en passant par un projet de loi, au lieu de passer par la table des négociations, le pousse un peu dans la gorge des médecins. Et les médecins disent, bien, nous, on ne négociera pas avec un gun sur la tempe. On fait ça à la table des négociations ou bien on va mettre en place des moyens de pression. Et c'est là qu'on a vu les moyens de pression s'accumuler dans les dernières semaines. On refuse de participer à la mise en place du dossier santé numérique. Donc, c'est un genre de projet informatique qui est en... d'être mise en
là, on
place
s'est retiré de l'enseignement.
On se retire de l'enseignement. Donc, les médecins de famille se retirent de l'enseignement. Les médecins spécialistes le faisaient déjà depuis la mi-septembre. La supervision des stages, même chose. Donc, les médecins ne superviseront plus les stages des jeunes médecins, ce qui va occasionner évidemment des retards dans leur parcours pour devenir médecin. Et donc, si tu retardes les stages, bien, ça veut dire que... Tu retardes également le moment où ces médecins-là vont rentrer pour faire leur résidence. Et quand les médecins sont résidents, ben ils traitent des patients. T'sais, ils peuvent traiter jusqu'à des dizaines de patients par jour. Alors, ces retards-là, oui, vont avoir un impact. Présentement, un impact d'abord et avant tout sur les jeunes médecins qui ne pourront pas graduer et amorcer leur résidence. Mais dans quelques mois, dans un bout de temps, ça va avoir un impact sur les patients parce que les médecins résidents ne verront plus de patients. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux autres, c'est pas compliqué, ils veulent le retrait du projet de loi 106. Comme je disais, que tout se fasse à la table des négociations et au final, que ce soit un arbitre qui tranche. Ils regardent ce qui s'est fait en Ontario, en Colombie-Britannique récemment. Il y a un arbitre qui a été mis en place pour couper la poire en deux. Ce que ça a donné, c'est 17 % et 20 % d'augmentation sur 4 ans. Si on prend, mettons, ce 20 %-là de la Colombie-Britannique, puis on le met, on assume que, par exemple, ce serait le cas au Québec, l'enveloppe pour la rémunération des médecins totale au Québec, c'est 9 milliards. Donc, combien ça coûterait 20 % de l'enveloppe de 9 milliards au Québec si jamais il y avait un arbitrage? Bien, ça coûterait 1,8 milliard Et qui paierait pour ça? Évidemment, c'est toujours les mêmes personnes. Ce sont les Québécois. Et donc, le ministre l'a exclu ce matin. Il n'y aura pas d'arbitrage. La question que ça pose, est-ce que c'est justifié de la part du gouvernement, considérant le nombre de milliards qui sont en jeu? Je viens de parler de 1,8 milliard. Et encore une fois, c'est toujours les Québécois qui payent. D'en demander plus, considérant les problèmes d'accès dans le réseau, et qui demeure, là, que ce soit le gouvernement de la CAQ, le gouvernement libéral, le gouvernement péquiste, les problèmes d'accès ont toujours été là. Et là, ce que les médecins disent, c'est que ça n'a pas de maudit bon sens de rentrer les indicateurs de performance, alors qu'eux-mêmes, ils disent, mais là, on n'est pas les seuls à être responsables de la performance du réseau. Tu sais, il y a d'autres capables de faire comme il faut notre travail. Et donc, ça, c'est ce que l'un et l'autre côté veulent.
Exactement. Quelle est la situation? Puis, tu m'as parlé aussi d'entrée de jeu d'une étude du HEC. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là aussi? T'sais, parce que moi, je cherche toujours à savoir qui est le bon et qui est le méchant dans cette histoire-là. Y en a-tu un?
Bien, je pense pas qu'il y en a un. T'sais, la vérité, entre toi et moi, Jeff, c'est qu'au niveau des communications, tu as deux bords qui ont deux messages complètement distincts, puis tu assistes à une guerre entre les deux, comme je disais, une genre de partie de tennis. Puis nous autres, on essaie de voir, OK, là, mais c'est quoi la vérité dans tout ça? Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Toi, tu n'es pas un spécialiste de ça. Mais le HEC, bon, une université réputée au Québec, une entité indépendante qui ne prend pas parti ni pour les médecins, ni pour le gouvernement, ont fait une étude. Mai 2025, c'est très récent, sur justement la rémunération des médecins et l'offre de services médicaux au Québec qui couvre au final de 2010 à 2022.
Fait qu'ils ont gardé une étude très exhaustive, là.
Très exhaustive, très récente. Et quels sont les constats de cette étude? Eh bien, de 2010 à 2022, les salaires des médecins de famille ont augmenté de 63 % et de 65 % pour les spécialistes. Alors, quand les médecins disent « on est les moins bien rémunérés au Canada », ce n'est pas vrai. Les médecins de famille québécois sont les mieux rémunérés au Canada lorsqu'ajustés au coût de la vie. Et les spécialistes, de leur côté, ben, ils sont dans la moyenne canadienne. Alors, ce n'est pas vrai que les médecins sont moins bien payés au Québec qu'ailleurs. Maintenant, le nombre de médecins par habitant au Québec a augmenté de façon considérable. Depuis 2014, on a plus 15 % de spécialistes, de médecins spécialistes, et plus 19 % de médecins de famille. Donc, le nombre de médecins augmente, mais quand tu regardes le nombre d'heures que ces médecins-là travaillent, ça n'augmente pas. Donc, sur la même période, il y a plus de médecins, mais il n'y a pas plus d'heures travaillées.
Alors, c'est pour ça que Christian Dubé dit que les médecins ne travaillent pas assez fort, dans le fond.
Bien, en tout cas, c'est ce que l'étude du HEC, comme je te dis, moi, je fais juste dresser un portrait le plus objectif possible de la situation, puis les gens se feront une tête à partir de ça. Mais effectivement, ça vient de constats qui sont reflétés dans cette étude-là. Donc, sur cette période...
Lambert, peut-être une mini-parenthèse. Dans l'étude, on voit-tu... Tu vas comprendre mon point là, par rapport aux négociations. Un genre de non-égalité du pouvoir dans ces négociations-là. On sent-tu quelqu'un un gros bout du bâton?
Ça parle pas vraiment de la négociation en soi. L'étude parle vraiment juste de constats
ouais.
par rapport à la hausse de la rémunération, par rapport à la hausse du nombre d'heures travaillées par les médecins.
Mais quand on regarde ça, par exemple, puis on fait le constat avec ce que le gouvernement demande et autres, on a-tu l'impression que ça va être un petit peu un conflit qui va perdurer parce qu'on n'est pas à égalité, en fait, dans ces négociations-là? Puisque le peuple est vraiment un petit peu la personne qui est emprisonnée là-dedans, là, dans ces négociations-là?
Bien, ce qu'on entend, c'est que le gouvernement ne veut pas reculer. Puis ce qu'on entend, c'est que pour les médecins, c'est catégorique que si le projet de loi 106 demeure et que la négociation n'est pas faite à la table, bien, on ne bougera pas puis on va continuer les moyens de pression. Et j'ai reçu un document d'un médecin qui m'a été envoyé qui dresse plusieurs autres moyens de pression envisagés par les médecins au courant des prochaines semaines. Et effectivement, Pascal, qui va être le premier touché au-delà des étudiants en médecine? Ce sera les patients québécois. Et donc, cette étude du HEC-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on paye plus cher depuis des années. On a augmenté la rémunération des médecins au point où ils sont dans les mieux payés du Canada. La rémunération des médecins a fortement augmenté, mais l'offre de services médicaux, elle, n'a pas suivi. Alors, le rapport suggère lui-même que la politique, la façon dont on paye les médecins au Québec doit être revu. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sur le site du HEC, vous googlez HEC médecin, vous allez trouver cette étude-là.
Alors là, j'imagine que le gouvernement se base sur cette étude-là, justement, pour tenter d'imposer ce nouveau mode de rémunération-là aux médecins.
Bien, en fait, cette étude-là, c'est sûr que pour eux, c'est quelque chose, disons, qui va dans le sens de ce qu'eux demandent. Et comme c'est une institution indépendante qui l'a fait, moi, je pense que ça donne d'autant plus de crédibilité à tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important aujourd'hui d'en parler, parce qu'on s'y perd tellement. Quel est le vrai portrait de la situation? Eh bien, cette étude-là le dresse. Et un autre élément que je veux mentionner, qui est impensable pour moi de ne pas parler lorsqu'on parle de négociations concernant la rémunération, la façon dont on paye les médecins au Québec, et je me suis fait lancer des tomates dans le passé pour parler de ça, c'est le statut, les avantages que les médecins ont, les privilèges que les médecins ont, qui leur ont été octroyés depuis les années 70. Les médecins de tous les employés du réseau de la santé, ce sont les seuls qui ont le statut de travailleur autonome, mais qui ont également les avantages d'un salarié, c'est-à-dire qu'ils ont un seul employeur et Dieu sait qu'ils ne manqueront jamais de patients. Donc, un travailleur autonome, à la base, mes amis, c'est quelqu'un qui doit, tu sais, travailler, aller chercher ses contrats, puis parfois, il y a des périodes d'instabilité parce qu'il y a moins de contrats qui rentrent, puis c'est pour ça qu'il y a certains avantages qui lui sont donnés. Mais un médecin, tu vas toujours avoir des patients à soigner. Il n'en manquera jamais. Et donc, ce statut de travailleur autonome-là, pourquoi c'est un avantage si grand que ça pour les médecins? Bien, c'est d'abord et avant tout au niveau fiscal. Ça leur permet de déduire plusieurs dépenses liées à leur pratique, leur matériel, assurance professionnelle, leur loyer. C'est sûr qu'ils doivent payer après ça pour leur bureau, leurs frais de bureau et tout ça. Mais bon, il y a quand même des avantages où ils peuvent déduire des dépenses. Ils peuvent s'incorporer, donc travailler via une société, un INC, ce qui permet de payer moins d'impôts en reportant une partie des revenus qu'ils gagnent à plus tard. Bref, ils payent moins d'impôts que les autres salariés, même s'ils gagnent plus et en gardent plus dans leur poche.
Lambert.
Donc, si je résume tout ça.
Oui, c'est ça. En terminant, là, si tu nous fais un petit wrap-up là, en 45 secondes, là, le gouvernement a raison ou non d'aller de l'avant puis de pousser les médecins à la limite?
Mais comme moi, j'ai commencé ma chronique en disant que je ne vais pas dire si le gouvernement a raison ou pas. Je vais dresser un portrait, mais les deux éléments que je viens de mentionner sont importants, selon moi, quand on parle du débat sur la rémunération. Au-delà des messages de communication que les deux côtés nous envoient, ce sont des éléments factuels et je veux que les Québécois qui nous écoutent gardent ça en tête lorsqu'on va justement entendre ces messages de com'-là. Sur la forme, on peut s'obstiner, mais sur le fond, les médecins, par leur simple statut fiscal, ont des avantages qu'aucun autre employé de la santé ont. Ça devait être des avantages temporaires mis en place dans les années 70, qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de s'attaquer à ça. Donc, ils ont préserver ça, cet avantage d'être un travailleur autonome. Et également, ce n'est plus vrai au moment où on se parle que les médecins québécois sont les moins bien payés au Canada. Pour les médecins de famille, ils sont les mieux payés au Canada et les médecins spécialistes sont dans la moyenne. Et dans la dernière année, ce que cette étude du HEC-là nous montre, c'est que leur rémunération a énormément augmenté, mais l'offre de services médicaux, elle, n'a pas suivi. Et je vous laisse avec ça. Je laisse les gens tirer leurs propres conclusions du portrait que je viens de dresser. Mais ce sera sur mes médias sociaux, cette chronique-là. Désolé si ce n'était pas la plus engageante. Hey,
la plus engageante, mais somme toute très, très, très informative. Puis elle va me servir en crime pour le futur, mon chum.
Exact. Je trouvais ça important là, de partir du début jusqu'à la fin, de dresser un portrait. Puis après ça, ben, les gens se feront une tête sur qui est-ce qu'ils supportent dans cette bataille-là.
Merci beaucoup, Lambert Drainville. On se reparle vendredi, mon ami.
Merci, mes amis.
Salut, bonne à vendredi. Amis. Salut. Pascal, après la pause, on embarque dans un dossier très intéressant que tu nous as préparé, c'est-à-dire arnaqueur émotionnel.
Ouais, et je trouve ça super pertinent parce qu'on en a entendu parler depuis des années. Il y a des gens qui ont tout perdu pour en envoyer sur la Côte d'Ivoire et autres. Mais qu'en est-il quand c'est un Québécois qui vraiment entourloupe des femmes une après l'autre en faisant croire que c'est un millionnaire puis qui va donc bien avoir un héritage intéressant, qui passe des paroles aux actions dans l'achat de certaines affaires, mais qui finalement ruine ses, entre parenthèses, blonde, parce que clairement, ils les aimaient pas. On peut comprendre ça. Bon, on en parle avec la journaliste Catherine Lamontagne du bureau d'enquête du Journal de Québec dans quelques instants.
Immédiatement après cette courte pause, on en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.
À Boulevard 102.1, Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité. Boulevard 102.1.
Météo, je vous le répète, 20 degrés aujourd'hui, généralement ensoleillé, puis demain 18, vendredi 22 degrés, alternance de soleil et nuages. Pascal CV, les victimes du faux millionnaire Serge Rivard exposent les arnaques sentimentales qu'elles ont vécues dans le livre et le documentaire « Le prince charmant n'existe pas » et t'as justement parlé avec... Catherine Lamontagne.
Oui, le livre paraissait aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire un livre avec ces témoignages-là des victimes, oui, du faux millionnaire Serge Rivard. Ouais. Et il y a le documentaire qui va sortir demain sur Illico+. Je parlais avec Catherine Lamontagne parce que c'est une journaliste aguerrie qui a travaillé très fort là-dessus avec, bien sûr, d'autres de sa profession, pas en termes de journalisme, mais réalisateur pour la publication, etc. Et elle était très heureuse de sortir ça ce matin parce qu'elle sait que c'est un problème, en fait, que peuvent vivre n'importe qui. Mais je me suis surtout intéressée à comment est-ce que c'est venu à ses oreilles, cette histoire-là.
Bien, en fait, le cas de Serge Rivard m'a intéressée pour plusieurs raisons. Premièrement, en ce qui a trait à la fraude amoureuse, généralement, on le sait, hein, c'est des fraudes qui se déroulent en ligne. Donc, c'est une relation qui va rarement dépasser les frontières du virtuel et il y aura des échanges d'argent, mais toujours dans un contexte de discussion là, sur Messenger ou des sites de rencontres. Tandis que dans le cas de Serge Rivard, cette arnaque-là, elle se transpose dans la vraie vie. Donc, Serge Rivard va rentrer dans les maisons, dans les comptes de banque et dans les cœurs de ses victimes, et pour vrai. Et il réussit à flouer ses victimes toujours avec le même modus operandi. Et c'est ce que notre enquête nous a permis de découvrir, là, que c'est un modus operandi qu'il utilise depuis plus de 2 décennies, qui aurait fait au moins une 20aine de victimes là, amoureuses, plus une 30aine de proches aussi, là, donc des enfants, des frères, des sœurs, des voisins, même des gens de sa propre famille là, que Serge Rivard aurait floué.
Tu sais, il n'y avait pas de victimes qui étaient épargnées dans ce cas-ci. On dirait qu'il était un peu teflon à l'empathie, à tout ce qui émanait comme émotion des autres, tellement qu'il recommence à 2 décennies, ouais. Une 20aine de victimes. Puis ça, c'est pour celle que Catherine a été capable de découvrir. Est-ce que ces femmes-là, il y a quelque chose qui a été cerné par Serge Rivard? Parce que c'est des femmes brillantes, comptables, ouais. Une femme qui a travaillé dans les banques pendant plusieurs années, une femme monoparentale qui a toujours géré sa vie avec...
Ouais, c'est des ça, femmes, avec rigueur.
Oui, là. Avec rigueur, qui payaient leurs factures, qui faisaient leurs affaires. Pour certaines, se sont ramassées dans les dettes, puis d'autres ont pensé à finir leur jour. Là. C'est des femmes intelligentes. Comment on explique ça?
Ben, c'est que Serge Rivard, il tient un discours qui est convaincant. Toutes les femmes à qui j'ai parlé parlent de lui comme d'un homme séduisant, charmeur, avec beaucoup de charisme, des belles paroles. Puis quand je vous dis là qu'il promet des maisons, des millions, puis des voitures aux femmes, il fait pas juste le promettre. Il va visiter des maisons à 1 million de dollars. Ils vont déposer des offres d'achat sur ces mêmes maisons-là. Ils vont débarquer dans un concessionnaire. Ils vont faire des tests autoroutiers. Ils vont commander 1, 2, 3, 4, 5 voitures, puis signer en bas de la facture. Ils vont rentrer dans un magasin de meubles. On va commander pour 80 000 $ de meubles. Pourquoi? Bien, parce qu'on vient de faire une offre d'achat sur une maison à 1,2 million. Il y a des femmes qui ont reçu des chèques de 250 000 $ dans leur compte de banque, de 750 000 $ dans leur compte de banque. Donc, pendant que ça se passe, tout ça a l'air vrai. Là, évidemment, ben la maison, ça va choper, la voiture, ça sera pas livré, le chèque de 250 000 $ va rebondir, mais à chaque fois, c'est Serge Rivard qui va dire « Ah, mes millions sont encore bloqués, je pensais que ça avait débloqué, ben je vais rappeler mon avocate, je vais rappeler ma notaire, je vais rappeler ma banquière. » Donc, ces femmes-là sont bombardées d'informations, on leur vend du rêve, on leur fait vivre du rêve, mais à l'opposé, elles s'endettent, elles se ruinent et elles font toutes sortes de choix ou de non-choix, en fait, qui les gardent dans cette spirale-là dans laquelle les entraîne Serge Rivard.
Je te parlais du fait qu'il paraissait des paroles à l'action, ben, tu sais, c'était concret pour ces femmes-là. Là.
Donc, compte tenu que c'était concret, ben là, c'est beau, hey, je vais dépenser parce que lui aussi a de l'argent, puis let's go, on y va.
Ben, surtout, j'étais en amour, c'est clair, oui. Il a l'air engagé là-dedans. Oh. Mais, tu sais, je me suis demandé, y a-t-il encore des femmes qui sont sous son joug malgré tout ça?
aucune des femmes à qui j'ai parlé pour Le Prince Charmant n'existe pas, que ce soit le livre qui est publié aujourd'hui aux éditions du journal ou la série documentaire qui sera disponible à partir de demain sur Illico Plus, dans une magnifique réalisation de Mélissa Baudet. Aucune de ces femmes-là n'est encore sous le joug de Serge Ivar. Dès qu'elles ont réalisé qu'elles s'étaient fait frauder, ça a été instantané. Là. C'est comme si le film des dernières semaines ou des derniers mois se rembobinait et que là, maintenant, tout faisait du sens. Là. Ah, c'est une arnaque. Maintenant, les conséquences, elles sont terribles. Il y a des femmes qui ont dû se trouver un deuxième ou un troisième emploi pour subvenir à leurs besoins. Il y a des femmes qui servaient à manger à leurs enfants le soir, mais qui pouvaient pas manger elles parce qu'il n'y en avait pas assez. Il y a même une femme qui a pensé mettre fin à ses jours. Donc, les conséquences, elles sont terribles pour ces femmes-là. Parce qu'au-delà de l'arnaque amoureuse, il y a une arnaque... Au-delà de l'arnaque financière, il y a une arnaque amoureuse. Donc, elles se sont senties flouées et trahies, mais au plus profond de leur être et de leur chair. Et ces femmes-là, aujourd'hui, il y en a 8 d'entre elles qui ont le courage de parler à visage découvert, de raconter leur histoire, de mettre de côté leur honte, leur sentiment de culpabilité pour lancer un message très, très fort. Là. Il ne faut plus jamais que cet homme-là ne fasse d'autres victimes et il est temps que la honte change de camp. Chose certaine, par contre, ces femmes-là, elles sont encore et toujours marquées par ce qu'elles ont vécu.
C'est sûr qu'elles sont marquées. Écoute, mets-toi à leur place. Là, c'est n'importe quoi. Tu penses vraiment bâtir une relation avec quelqu'un. Finalement, tu te fais flouer dans tous les spectres là, amoureux, financiers, sur la confiance. J'ai demandé aussi si ces femmes-là ont réussi à avoir de nouvelles relations depuis. Elles me disaient que oui, il y en a certaines qui ont eu confiance
Bonne
à l'amour
nouvelle.
À nouveau. C'est une excellente nouvelle. Puis ce gars-là, on dirait qu'il n'y a pas de scrupules, très honnêtement. Puis tellement que je me dis, ouais, c'est quoi la suite pour Serge Rivard? Parce qu'il y a un processus là, actuel, il est en procès, mais où est-ce qu'on en est?
Bien, il faut dire que Serge Rivard, là, il a déjà été reconnu coupable pour des arnaques sentimentales. Je recommence ici, moi. Faut dire que Serge Ivar, il a déjà été reconnu coupable pour des arnaques sentimentales à plusieurs reprises depuis 2015. Là. Il a écopé de peines qui varient entre 6 mois de prison et 3 ans de détention pour ses crimes. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà bien connu du système judiciaire en matière de fraude. Maintenant, Serge Ivar est arrêté en décembre 2022, toujours pour des fraudes amoureuses. Il est détenu depuis à la prison de Bordeaux à Montréal. L'an dernier, il a plaidé coupable à certaines accusations qui pesaient contre lui, mais contre toute attente, récemment, en fait, il a déposé une requête pour retirer son plaidoyer de culpabilité. Donc, il y a un an, Serge Rivard plaidait coupable devant le juge, reconnaissait des faits et il était là à quelques semaines de recevoir une peine. Il y avait même une suggestion commune là, qui avait été négociée entre les parties et les parties étaient prêtes à soumettre cette suggestion de peine au tribunal, mais voilà que c'est ça. À l'automne, Serge Rivard a dit que non, là, il veut retirer son plaidoyer de culpabilité. Il y a des arguments à faire valoir, semble-t-il. Donc, on en saura plus probablement au cours des prochaines semaines.
Alors, il est encore dans le processus. Il veut quand même revoir un peu son plaidoyer. C'est comme si maintenant, il serait plus coupable de ça. Particulier. Tu sais, je me suis posé la question, honnêtement, là, Jeff, là, ça me faisait penser des fois à ces femmes-là qui étaient sous le joug de Raël.
Tu sais, oui,
de fins manipulateurs, des gens très narcissiques ou qui n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient dans la vie. Fait que là, ils réussissent à trouver une brèche chez leurs victimes, puis des fois, la brèche chez l'amour et tout ça. Le processus derrière ça, côté psychologique, c'est quoi?
C'est une question qu'on s'est posée aussi dans le cadre du documentaire et du livre et on est allé rencontrer une psychiatre pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces fraudeurs amoureux, récidivistes. Puis dans le cas de Serge Rivard, c'est le nombre de victimes qui était surprenant. C'est quand même une 20aine de femmes là qui se disent victimes de Serge Rivard sur à peu près 2 décennies. Tous les proches aussi. Et le fait que Rivard avait soutiré de l'argent à des membres de sa propre famille. Donc, on se disait, mais comment est-ce qu'on en vient à ça? Évidemment, la psychiatre peut pas se pencher sur le cas précis de Serge Rivard, mais ce qu'elle nous expliquait, c'est que généralement, les fraudeurs récidivistes, c'est des gens qui sont capables d'aller cibler le besoin sur l'autre. Qu'est-ce que cette personne-là a comme besoin à combler? Puis là, dans le cas de nos femmes, mais c'était un besoin d'amour, hein? Et ils sont très bons pour répondre aux besoins que la femme ou que la personne a envie de combler et un peu se servir de ça pour voir qu'est-ce que ça peut lui apporter à lui. Tu sais, dans le fond, Serge Rivard, qu'est-ce qu'il avait de besoin, lui? Ben, il avait besoin d'un toit. Il avait besoin de nourriture. Il avait besoin d'amour, puis il avait besoin d'argent. Fait que c'est comme s'il avait réussi à déployer tout ce stratagème-là sans jamais vraiment se sentir mal, probablement, sans ressentir de la culpabilité parce que ça vient combler son besoin à lui.
Du narcissisme à son plus gros élément.
C'est capoté. Hey, pas ressentir d'émotion.
Non.
Quand t'es en train de leurrer, plein de femmes, ta famille, tu sais, c'est ses proches aussi. Ah, moi, c'est fascinant.
C'est très
Faites
fascinant.
Faites attention à vous, puis je suis désolée pour ceux qui vivent ça. Ouais.
Série documentaire sur Illico à compter de ce soir, dès demain, et le livre est justement mis en vente. Merci beaucoup, Pascal CV, pour ce dossier qui nous a permis là, d'aller justement dans cette histoire de Serge Rivard et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres femmes qui se fassent prendre.
Ouais, là,
on va le souhaiter.
Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein, ouais,
exactement.
Mais faites attention à vous.
Petite dernière pour toi demain avant ton trip pour le Kilimanjaro. Donc, on se donne rendez-vous à midi comme d'habitude à l'émission On Jase. Le retour de Gravel suit à l'instant. Passez une belle fin de journée, les amis. À demain.